Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, vous allez enfin connaître la vérité sur la méta-analyse Fiolet et Hall 2020. Donc si vous découvrez ce podcast, sachez dès le départ que je suis un des co-auteurs de la méta-analyse Fiolet et Hall 2020 sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur la mortalité des patients hospitalisés atteints de Covid-19 qui a été publié dans Clinical Microbiology and Infection à la fin de août 2020. Donc suite à cette méta-analyse, il a été assez amusant de voir le nombre de gens avoir un avis sur qui je suis, sur mes valeurs et sur mon travail. Et ce podcast, ce billet de blog, il a donc pour objet de vous raconter l'envers du décor de mon activité sur les réseaux sociaux pendant cette pandémie et l'envers du décor de la fameuse méta-analyse. Donc déjà pour commencer, non, je suis pas un jeune étudiant, j'ai 34 ans, je suis chercheur, j'ai travaillé au CNRS et maintenant je suis collaborateur scientifique et chargé d'enseignement à l'université de Neuchâtel en Suisse. Donc bon, on est assez loin de l'image du gamin pas sorti de l'école. Donc, je suis chercheur en biologie et on va pas se mentir, au début de l'année, le Covid-19, on en rigolait plutôt. Hein. La plupart d'entre nous trouvaient qu'on en faisait trop pour cette histoire et on était plus ou moins assez d'accord avec Didier Raoult qui disait que bon, y a trois Chinois qui meurent et puis ça fait une pandémie. En fait, la seule chose qui me préoccupait à cette époque, c'était de savoir si j'allais pouvoir participer à mon congrès préféré, la DGP 2020, c'est un congrès de protistologie. Cette conférence, elle a eu lieu cette année à Kaiserslautern, en Allemagne, entre le 4 et le 6 mars. Et il y avait à ce moment-là deux cas de Covid déclarés à l'université de Kaiserslautern, et des mesures simples de désinfection des mains étaient mises en place dans l'université où avait lieu le congrès. Personne portait de masque, le congrès il était très détendu, et puis niveau distanciation sociale, c'était vraiment pas top. Alors, il y a un certain nombre de chercheurs, dont pas mal de Russes et puis aussi des Américains, qui avaient déjà annulé leur venue à la DGP à cause du Covid. On commençait juste à prendre la mesure de la pandémie qui arrivait. Enfin, quand je dis « on », c'est nous les biologistes, mais en fait, les virologues et les épidémiologistes, ils avaient déjà très bien compris le truc dès la fin janvier. Maintenant, pour vous donner le contexte, pour se remettre dans le contexte, c'est en mars que tout s'accélère. Le 25 février, donc, presque en mars, Didier Raoult publie une courte vidéo intitulée « Coronavirus, fin de partie », en se renommant ensuite « Coronavirus vers une sortie de crise, point d'interrogation ». Et dans cette vidéo, il dit que l'hydroxychloroquine est un médicament valide, qui a des effets spectaculaires sur le Covid-19. Alors Didier Raoult, c'est pas un inconnu hein, dans le milieu scientifique, tout bon biologiste a déjà étudié les mimivirus qu'il a découverts. Donc l'annonce, elle est plutôt prise au sérieux, même si on attend les résultats. Alors pourquoi on attend les résultats? Parce qu'une hypothèse scientifique, ça se teste, ça se déclare pas. Et ici, l'hypothèse, elle apparaît fondée, puisque des communications chinoises orientent vers ce traitement, mais aucune étude concluante n'existe encore. Le 16 mars, Didier Raoult sort une vidéo présentant les premiers résultats de son étude avec l'hydroxychloroquine. Le 17 mars, le confinement est déclaré en France, on observe une espèce de panique dans la population, les gens réclament des masques, désinfectent leurs courses, etc. C'est la ruée vers les pâtes et le PQ. La communication du gouvernement sur les masques est d'ailleurs assez naze et commence à créer une perte de confiance de la part de la population, même si à cette époque l'OMS ne recommande pas l'usage du port du masque. Le 18 mars, une vidéo complotiste accusant l'Institut Pasteur d'être à l'origine du virus se répand sur la toile. L'auteur a depuis été condamné pour diffamation. Et dans la foulée, et parce que mes amis me le demandent, je sors une vidéo réponse en guise de debunk qui a un peu de succès, je crois qu'on a 60 000 vues ou quelque chose comme ça. À partir de cette date, je commence à être assez actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, où je partage de temps en temps des points sur l'épidémie. Le 20 mars sort la première étude de l'IHU sur l'hydroxychloroquine, le fameux papier Gautret et Hall, en préprint. Maintenant, on rentre dans le chapitre de l'évaluation scientifique de l'efficacité de la chloroquine. Le papier Gautret et Hall sort en préprint, et là c'est la stupeur, il y a un énorme décalage entre les déclarations victorieuses de Didier Raoult et la réalité scientifique de cet article. L'étude, elle ne permet pas du tout de donner les conclusions qui y sont présentées, et je vais pas revenir là-dessus parce que cet article, il a été analysé maintes fois, notamment par Alexander Samuel ou dans un article que j'avais traduit et vulgarisé, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Vous pouvez aussi retrouver ce lien dans tous les liens dans l'article de blog. Et c'est là que l'opposition Didier Raoult versus le reste du monde a commencé à se construire. L'argument principal des défenseurs de l'hydroxychloroquine et de Didier Raoult, c'est que c'est une sommité du domaine et que donc ses travaux sont inattaquables. Alors en soi, c'est pas vraiment un problème d'avoir une étude qui est un petit peu mal construite, et surtout en temps de pandémie où il faut aller un petit peu vite et produire de l'information rapidement, on peut comprendre qu'on ne prenne pas le temps de faire un essai de très grande ampleur. En revanche, c'est un problème quand les données sont potentiellement sciemment bidouillées pour valider une conclusion écrite a priori. Et quand on regarde les données, il paraît impossible qu'à ce stade, Didier Raoult et les équipes de l'IHU soient convaincus de leurs résultats. Pourtant, ils vont s'enfoncer dans cette voie. Et il y a un fait qui est ahurissant, c'est que cette étude, elle sera publiée le 22 mars dans International Journal of Microbiology, dont le comité éditorial est composé de collaborateurs de Didier Raoult. Alors c'est un journal qui fait pas partie du haut du panier en termes de réputation, hein, ce qui est un indice de plus sur la qualité du papier. Parce que si l'article permettait effectivement de conclure à une efficacité spectaculaire de l'hydroxychloroquine, bah, il aurait été publié facilement dans une grande revue comme le Lancet ou le New England. Une curiosité supplémentaire, l'article il a été accepté en 2-3 jours, c'est-à-dire que entre le moment où l'article a été soumis à l'éditeur, le moment où l'éditeur a envoyé l'article aux reviewers, le moment où les reviewers ont envoyé leurs commentaires, le moment où les corrections ont été apportées, le moment où l'article a été accepté pour publication, il y a eu 2-3 jours. Alors de là à dire qu'il n'y a pas eu de relecture par les pairs, il n'y a vraiment qu'un pas. À titre d'exemple, quand moi je review un article, ça me prend environ une dizaine d'heures au minimum, souvent étalé sur plusieurs jours pour laisser décanter un petit peu ce que j'ai lu la nuit. Là, l'article il est tellement problématique que Elsevier, qui est la maison d'édition à laquelle appartient le journal où l'article est publié, publie un communiqué pour dire que l'article est mauvais. C'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais en science. Bref, la communauté scientifique est déçue par ce papier, qui ne permet pas de valider l'hypothèse de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid. Et de là commencent à se construire plusieurs oppositions, Marseille contre Paris, méthodologistes contre médecins de terrain, etc. On arrive sur le champ lexical de la médecine de guerre, hein, qui s'appuie sur la fameuse déclaration de Macron « Nous sommes en guerre ». Bah, sauf qu'ici, on n'est pas en guerre, on est dans une pandémie. Et loin de convaincre la communauté scientifique, ce discours, en revanche, fait mouche auprès d'une population anxieuse qui a besoin de réponses, et ça se comprend très bien. Hein. Sauf que les réponses scientifiques, elles ne peuvent émerger que de la méthode scientifique, qui doit donc être soignée. Comme dit Étienne Klein dans une vidéo que j'ai pas réussi à retrouver, la science ne peut répondre qu'à des questions scientifiques, mais elle est la seule à pouvoir y répondre. La méthode scientifique, c'est le seul outil qui nous permette de tester, valider ou invalider une hypothèse scientifique. Alors elle est pénible, elle est rebutante, elle est précise, mais elle fait partie de l'art, elle fait partie du métier. Et dans tous les métiers, la technique est garante de la qualité de l'ouvrage. C'est vrai partout, c'est vrai dans la boulangerie, c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans les métiers du sport, etc. C'est vrai dans tous les métiers. Pour la communauté scientifique, il devient alors crucial d'expliquer la méthode scientifique, l'esprit critique, l'éthique des essais cliniques, et je vous renvoie à l'excellent article de Juliette Ferri-Danini à ce sujet. Seulement, bah, ce sont des sujets qui sont très techniques, difficiles et qui demandent des efforts, du temps et des ressources mentales. Et attention, quand je dis ça, je dis pas qu'il faut être intelligent pour les comprendre. Ce que je veux dire, c'est que quand on est inquiet par le confinement, qu'on risque de perdre son boulot, qu'on doit gérer les gosses qui sont à la maison, et qu'on nous dit qu'on a trouvé un médicament miracle, on n'a pas forcément envie de se taper 3 articles sur le principe d'équipoise, 2 vidéos sur les statistiques, etc. Et ça, c'est normal. Ce qui est anormal, en revanche, c'est que des scientifiques utilisent cette vulnérabilité de la population pour leur gloire personnelle dans un moment où bah, c'est la collectivité qui doit prévoir. Quand on demande à sa population une abnégation incroyable pour soutenir une première vague fulgurante, que penser alors de ceux qui surfent sur cette vague pour se faire mousser, vendre des livres ou plus récemment sortir des films ? Tout ça, ça m'a amené à m'interroger sur la place du chercheur dans la société, et puis ça nous amène dans ce podcast sur la genèse de la méta-analyse. Donc entre-temps, moi je réfléchis pas mal à mon rôle en tant que scientifique à jouer dans cette pandémie. L'université elle est fermée pour les étudiants, je travaille à la maison, je suis atteint d'une toux depuis plusieurs semaines, bon qui s'avérera par la suite être de l'asthme allergique dû au pollen, mais à ce moment-là je pouvais pas tellement le savoir parce qu'il y avait pas trop de tests Covid à l'époque. Donc bon, je suis contraint de rester chez moi. J'écris, mi-mars, une petite note sur LinkedIn pour expliquer comment nous, scientifiques, avons échoué à prendre la mesure de cette pandémie alors même que nos collègues épidémiologistes nous avertissaient depuis plusieurs semaines. Mon travail de vulgarisation sur YouTube commence le 3 février où je postais une vidéo sur les séries temporelles et le changement climatique. Le 27 février, je propose une vidéo sur la vaccination pour expliquer l'immunité de groupe dans le Covid-19. Et je partage cette vidéo sur un groupe Facebook qui s'appelle Vaccin France Information et Discussion, qui vise à fournir de l'information scientifique sur les vaccins. Je sympathise à ce moment-là avec les modérateurs de ce groupe et je fais la connaissance de vraiment plein de gens. Le 15 mars, je sors une vidéo qui explique les effets du confinement sur la propagation du virus. Le 28 mars, je sors cette fameuse réponse à la vidéo du pseudo-gilet jaune qui croyait que le SARS-CoV-2 avait été créé par l'Institut Pasteur parce qu'il avait trouvé un brevet et qu'il savait pas lire. Bref, cette vidéo elle a été pas mal vue, et j'ai été contacté par France 2 à ce moment-là qui faisait un sujet sur la vidéo du pseudo-gilet jaune qui n'avait rien compris. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, finalement, que mon travail compte et peut être utile. Le 21 mars, je sors donc ma première vidéo faisant un point sur l'épidémie. Pour faire ces dernières vidéos, je demande beaucoup de relecture aux modérateurs du groupe Facebook sur la vaccination parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine. Dans ce groupe, je commence à avoir une petite réputation de mec qui aime bien les stats, réputation qui n'est pas forcément volée, Donc quand l'étude Gautret sort, c'est-à-dire la première étude de l'IHU, bah on la passe en revue ensemble. Et là, c'est catastrophique, comme j'expliquais précédemment. Le 11 avril, il y a un nouvel article de l'IHU qui sort dans Travel Medicine and Infectious Disease, un journal dont plusieurs membres du board éditorial sont des proches collaborateurs de Didier Raoult. Et là encore, l'article il est accepté en une journée. Nouvelle consternation, l'étude ne présente pas de groupe contrôle. Dès lors, il est impossible de savoir si les patients traités guérissent mieux ou moins bien que ceux à qui on donne rien. Bon, bah encore une étude qui permet pas de savoir si l'hydroxychloroquine permet de traiter les gens malades du Covid. Le 5 mai, rebelote, article de millions sur plus de 1000 patients, sans groupe contrôle encore, et à chaque article, je passe un peu de temps à les expliquer sur les réseaux sociaux. Thibaut Fiollet, qui tient la page et le blog Quoi dans mon assiette, publie des analyses très bien faites des articles sur son blog et sa page Facebook, et nous sommes mis en relation par une connaissance commune. La première fois qu'il me contacte d'ailleurs, c'est pour me dire qu'il trouve que mes analyses que je fais sur YouTube sont pourries. Bon, ça n'a pas empêché qu'on s'entende bien par la suite. Alors le courant passe bien, et puis très tôt Thibaut manifeste son envie de publier des trucs. En fait, Thibaut passe tellement au crible les papiers sur l'hydroxychloroquine qu'il publie et met à jour régulièrement sur son blog un tableau synthétisant les différentes études relatives à l'hydroxychloroquine. Parce qu'à cette période, bah, c'est un flou complet pour s'y retrouver. Dans la communauté scientifique, pour ceux qui ont pris le temps de se tenir informés de toutes les études, c'est déjà compliqué, mais alors pour la population et les journalistes, c'est vraiment le flou complet. Donc le 22 mai, Thibaut propose sur Twitter des ébauches de méta-analyse avec comme outcome la négativation de la PCR à 28 jours. Le 22 mai, bah malheureusement, c'est aussi le jour où sort l'article frauduleux du Lancet. Alors on est nombreux à être tombés dans le panneau dès le début parce que bah méthodologiquement, le papier était relativement propre finalement, mais les données étaient bidonnées. Et en tant que scientifique, c'est quelque chose qui paraît, ma foi, inenvisageable. On a toujours envie de croire à la bonne foi de nos collègues. Donc voilà. On a été nombreux à avoir des doutes assez vite quand même en regardant les données de plus près, chacun dans son pays. Moi personnellement, ce qui m'a fait tiquer, c'est d'avoir des statistiques ethniques en France parce que c'est illégal. Également, pour avoir travaillé un petit peu avec des start-up dans le secteur médical, je sais que la remontée des pays, donc des dossiers patients informatisés par les hôpitaux, c'est très très encadré, et je trouvais que ça puait un petit peu. Bon, beaucoup ont dit que c'était impossible de générer, de traiter autant de données en si peu de temps, mais en réalité ça c'est tout à fait possible, et c'est même pas si difficile si l'infrastructure logicielle, informatique, elle est bien faite. Pour les défenseurs de la chloroquine, ce papier, dans Lancet, c'est une tentative de discrédit de la molécule pour pouvoir vendre le remdesivir. Moi, mon avis personnel, c'est que le PDG de Surgisphère, à ce moment-là, il a tenté de jouer un coup pour faire de la publicité à sa boîte, en flouant complètement ses co-auteurs. Bon, alors, je dis en flouant complètement ses co-auteurs, ceci dit, ces derniers ne sont pas tout blancs quand même, parce qu'ils auraient dû se poser ces questions de l'origine des données avant de vouloir faire un coup dans le Lancet. Les résultats de l'étude, bon bah, ils étaient crédibles, parce que les bonnes études sur l'hydroxychloroquine, ils allaient dans le même sens, celui de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Alors l'article, il sera rétracté le 5 juin. Et pour les défenseurs d'hydroxychloroquine, bah, c'est la preuve qu'il y a un complot visant à invalider le traitement. Le problème, c'est qu'à cette date, la littérature scientifique, elle permet toujours pas de se prononcer en faveur ou en défaveur du traitement. Et en fait, le fait qu'il y ait rétractation aussi rapidement, bon, bah, ça montre finalement le bon fonctionnement de la science. La rétractation d'articles, ça arrive régulièrement dans tous les journaux, même les meilleurs. Et souvent, par contre, ce processus, il va prendre des mois. Ici, le processus d'open peer review, il a permis de rétracter ce papier frauduleux en 2 semaines, ce qui est vraiment extrêmement rapide. Le Lancet, d'ailleurs, il a bien réagi en prenant immédiatement la mesure du problème, et puis en modifiant sa politique de review et de contrôle pour les futurs articles à venir. Bref, le 3 juin, Thibaut décide de vraiment essayer de publier quelque chose de sérieux, et il envoie un mail où il me met en contact avec Mathieu, et qui d'ailleurs relance un petit peu Anthony. Thibaut recrute Yaya, et dans cet email, Thibaut propose quelques analyses parcellaires et une vague idée de ce qu'il voudrait faire comme article. Alors le groupe WhatsApp, MetaHTQ, il est créé dans la foulée. À partir de là commence une des périodes les plus fun de ma vie de chercheur, parce que bah on n'a pas de chef, on est un peu fou, on a du temps à tuer, puis puisqu'on a la maison. Donc bah ça discute beaucoup, 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 on discute de tout, on a plein d'idées. Et donc là, entre le 3 juin et le 19 juin, parce qu'on est surmotivé, on passe du mail embryonnaire de Thibaut à dépôt du protocole sur Prospero, donc on fait ça le 9 juin, la recherche, l'analyse des articles qui nous avaient échappé, une réanalyse, et ensuite un dépôt du préprint sur MedArchive. Et ça correspond à environ 250 messages sur WhatsApp et une petite dizaine d'emails. Alors Thibaut, il a mis en place un Google Doc sur lequel on travaille tous simultanément, et sur WhatsApp, bah, on discute de la pertinence de tel ou tel article, de telle ou telle analyse. Il y a plein d'analyses qu'on a faites, que finalement on n'a pas mis dans l'article final parce que c'était pas pertinent. Mais voilà, on arrive finalement très bien à collaborer ensemble, et c'est quelque chose qui est très très stimulant. Donc on cherche un journal ensuite dans lequel on voudrait publier, on pourrait publier, puis là on galère un petit peu. Alors à ce moment-là, Thibaut il va recruter Nathan Peffersmadja le 19 juin, parce que Nathan il connaît mieux les revues dans le domaine de la médecine, parce qu'il est médecin, et puis il pourra nous aider à donner une couleur davantage clinique au papier, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous aider à rédiger le papier de façon à ce qu'il intéresse les médecins, puisque nous c'est ça aussi notre but. Donc là on va essuyer plusieurs refus de la part de revues au motif que ça rentre pas dans leur ligne éditoriale, etc. Alors effectivement, comme c'est un champ de recherche dans lequel on n'est pas familier, c'est pas facile de sentir ce que cherchent les différentes revues. Alors le 1er juillet, on pense à Clinical Microbiology and Infection, CMI, et on se dit qu'on va changer un peu de stratégie en contactant au préalable l'éditeur pour savoir s'il était intéressé. Ça, c'est quelque chose qui est pas rare dans la recherche, et ça évite d'attendre plusieurs jours que le comité éditorial lise l'article et se prononce. Là, dans l'UD, on lui demande s'il est intéressé par une méta-analyse. S'il est intéressé, alors on soumettra par la voie classique, et puis notre article y suivra le circuit de peer review traditionnel. Donc pour information, le professeur Leibovitzi, qui est l'éditeur en chef de CMI, c'est un expert en épidémiologie. Donc il s'avère qu'il est intéressé par une méta-analyse sur le principe, et donc nous, on soumet l'article par la voie classique. Et c'est seulement le 26 juillet que nous recevons une réponse positive et les rapports des reviewers. Donc les reviewers, c'est les évaluateurs externes de CMI. Donc dans le temps de la recherche, c'est très court, quelques semaines, mais pour nous, ça a été très très long, parce que il s'est passé beaucoup de choses en 4 semaines. Il y a eu les papiers de Delambalerie qui sont sortis dans Nature, il y a le site C19 Study qui est apparu, etc. Enfin, je ne peux pas trop m'étendre, mais il y a eu beaucoup d'événements. Donc dans les commentaires des reviewers, on a pas mal de révisions à faire. Déjà, il faut qu'on mette à jour les données. Et puis, il y a une foule de trucs qui seraient trop longs de détailler, qu'on doit ajouter, comme l'analyse bayésienne, etc. On resoumet l'article le 1er août, soit moins d'une semaine après avoir reçu les commentaires des reviewers. Donc sur le groupe WhatsApp, ça représente environ 400 messages, de la sueur, du sang et des larmes. Bon ok, là j'en fais trop, mais c'était quand même beaucoup de boulot, abattu, je le rappelle, en dehors de nos heures de travail. Donc finalement, le papier il est accepté le 10 août, avec une mini-révision, et là on est content. Mais on sent bien que ça va être un vrai rodéo, et que le papier va faire du bruit, et qu'on va se faire taper dessus. Mais bon, c'est pas grave, on sait pourquoi on a signé. Le professeur Leibovitzi, qui est l'éditeur de CMI, il annonce qu'il veut organiser une press release, c'est-à-dire qu'il veut organiser des communiqués de presse pour communiquer sur les résultats de la méta-analyse dans la presse, à sa sortie. Donc il est assez satisfait de la qualité méthodologique de l'étude, et puis il fixe une date de publication en ligne le 26 août, alors que l'article est accepté le 1er août, donc c'est un long temps d'attente pour nous. Donc nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on va contacter nos services de presse respectifs, et de mon côté, à l'université de Neuchâtel, on a choisi de communiquer pas tellement sur les résultats de la méta-analyse, mais plutôt sur le côté science citoyenne. Parce que quand même, ce qui est rigolo, c'est que l'histoire, elle est hyper saugrenue. Comment des types qui se sont rencontrés sur Twitter et Facebook, ils arrivent à pondre une méta-analyse dans une très bonne revue, sur leur temps libre, pendant une pandémie, avec pas de fonds alloués, pas de directeur de recherche, etc. Enfin, c'est vraiment... c'est complètement... complètement incongru comme situation. Et moi, ce que je me dis, c'est que si on peut avoir un petit article en Suisse pour discuter un petit peu de ce volet-là, ça serait sympa, ça donne une image plutôt sympathique de la recherche, etc. Alors, on organise également la sortie de notre côté en faisant beaucoup de vulgarisation. Thibaut, il va préparer une vidéo collaborative pour expliquer le travail qui a été fourni. Moi, de mon côté, je prépare deux vidéos, une qui est très courte, qui explique les résultats, et puis une qui est très longue, qui fait environ 45 minutes, qui explique la méthodologie et les statistiques de la méta-analyse. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été vue plus de 2000 fois, ce qui est beaucoup pour une vidéo de ce type. Et dernière chose, on réfléchit à mettre en place un site web pour répondre aux questions, parce que nous, on est toujours dans une démarche de vulgarisation depuis des mois, et on sait que notre étude, elle va soulever des interrogations légitimes dans la population. Et donc, nous, on décide d'adresser ces questions de façon transparente. C'est très important d'expliquer la démarche scientifique. Pourquoi ? Parce que si on veut développer l'esprit critique dans la population, il faut qu'on donne des armes à cette population. Et à partir de là, commence une période assez drôle, parce qu'on a la sortie de l'article qui est suivie d'une campagne de harcèlement, de diffamation et de trolling. Alors le 26 août, la méta-analyse elle sort après un long embargo, puisque je vous rappelle que l'article était accepté début août. Ça, c'est, en fait, c'est le temps pour CMI de faire la mise en page, qu'on appelle le typesetting, et puis d'organiser le press release. Et là, honnêtement, j'étais pas préparé. Moi, la veille au soir, la veille de la publication de l'article, je finis d'enregistrer ma très longue vidéo de 45 minutes, donc ça, je finis vers 3h du matin, et l'idée, c'était de me dire que comme ça, le lendemain, j'ai la journée libre pour aller faire de l'escalade, parce que c'était prévu qu'il fasse une belle journée, donc je m'étais libéré la journée. En réalité, le téléphone, il commence à sonner à 8h30 du matin, avec la RTS, donc c'est la radio suisse, qui m'invite à participer à l'émission de radio CQFD du lendemain. C'est un peu l'équivalent de la tête au carré sur France Inter, si vous voulez. La terre au carré, maintenant. S'ensuit ensuite un appel de la RTN, donc ça c'est la radio neuchâteloise, du journal Le Temps, de ID News, une foule d'emails, enfin bref, la réponse aux différentes sollicitations, ça s'arrête environ vers 22h. Et le lendemain, en fait, j'ai un programme de malade. Je pars le matin à Lausanne pour l'émission de radio. Ensuite, j'ai une interview avec le téléjournal de la RTS, donc le 19h30. C'est en gros l'équivalent du 20h de France 2 en Suisse. Et là, c'est la première fois que je rencontre Mathieu et Anthony. C'est assez rigolo. Ensuite, je rentre à Neuchâtel où j'ai une interview pour Le Courrier, qui est un très bon journal. Puis j'ai une interview avec Canal Alpha, qui est une télé plutôt locale. Et puis une interview avec ID News. Et je rentre chez moi, il est 18h. Alors ça, c'était une expérience hyper intéressante, et ce qui ressort des différents échanges avec les journalistes, bah, c'est que finalement ils croient plus tellement sur parole Didier Raoult, et ils en ont un peu marre de ses postures, et ils cherchent de l'info fiable. Et il y a certains des journalistes qui s'inquiètent même un petit peu des répercussions que notre étude va avoir sur nos vies à nous les co-auteurs, parce que bah voilà, il y a certains journalistes qui ont l'âge d'être nos parents, et ils s'imaginent leurs enfants à notre place, et ils sont un peu inquiets. Bon, moi je m'inquiète pas trop, hein, mais peut-être j'aurais dû. Et en fait, ils se sont pas trompés. Côté IHU, sur Twitter, on nous promet la déculottée, et puis on sort une méta-analyse en temps réel pour allumer un contre-feu. Bon, la méta-analyse en temps réel, elle n'a rien d'une méta-analyse, publiée sur un site web. Didier Raoult sort même une vidéo dans laquelle il commente la méta-analyse et dans laquelle il nous qualifie de jeunes pleins de jus. Donc ça, c'est un qualificatif qu'on a vite adopté, finalement. Et puis dans cette vidéo, il fait un tour de cartes raté pour nous accuser de cherry-picking. Bon. Ok, donc là on baisse un petit peu la garde, et tout de suite, il y a une campagne de sea lioning qui se met en place. Alors qu'est-ce que c'est le sea lioning ? Sea lion, c'est un lion de mer. En fait, c'est une technique de troll qui consiste à poser une série de questions en rafale, supposément de bonne foi, mais pour forcer son interlocuteur à se mettre en colère et retourner ses éventuels dérapages contre lui. Et là, le but, c'est pas tellement d'avoir des vraies réponses et d'avoir un vrai débat objectif, non, le but c'est de créer une polarisation du débat et simultanément de discréditer le travail mené en utilisant le déshonneur par association. Bah oui. Parce que si les auteurs, ils sont pas irréprochables dans la vie, alors comment est-ce que leur travail pourrait l'être, irréprochable ? Le but de la sphère Raoult, à ce moment-là, bah, c'est de faire que notre étude elle soit rétractée d'une part, et que nous soyons, nous, en tant qu'auteurs, discrédités. On reçoit 3 lettres à l'éditeur de la part de la sphère pro-hydroxychloroquine, qui serait lui comme peau de chagrin, avec plus ou moins les mêmes commentaires auxquels nous avions déjà répondu sur PubPeer. 2 de ces lettres ont un auteur commun, ce qui est très très rare dans le milieu scientifique, quand on envoie des lettres à l'éditeur sur un article. Sur Twitter, bon, c'est un festival avec la clique habituelle, dont je donnerai pas les noms pour pas leur faire de la pub et leur apporter des followers, mais bon, voilà. Quand, pour critiquer un article, et là je rappelle que la critique d'un article, c'est quelque chose de respectable, mais quand, pour critiquer un article, on arrive à qualifier Thibaut parce qu'il est typé asiatique de Bots People Student, et Yaya parce qu'il est noir de minorité visible, alors que tous les deux, ils ont des compétences indéniables en épidémiologie et en méta-analyse, c'est risible. C'est vraiment significatif du délire et de la méchanceté ambiant. Délire et méchanceté qui sont tellement présents chez les aficionados du traitement qui ne marche pas qu'on a reçu des menaces de mort en assez grand nombre. Et puis ça use des expressions complètement idiotes comme fioléguette, puceauguette, etc. Et puis ça invente une passion amoureuse entre Nathan et son chef. C'est vraiment lamentable. Et là, on n'est même pas dans un débat d'opinion, en fait. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est on cherche à construire un consensus scientifique, parce que bah, pour un traitement, soit il marche pas, c'est tout, et puis peu importe qui écrit l'étude. Et là, c'est n'importe quoi, on arrive dans une espèce d'opposition. Didier Raoult, il va même jusqu'à sortir un livre qui s'appelle « La science est un sport de combat ». Alors moi, personnellement, dans la recherche, j'ai pas d'adversaire, hein. J'ai que des partenaires avec qui j'échange beaucoup pour améliorer mon raisonnement, et puis mes connaissances, etc. Et considérer que la science nécessite forcément de s'opposer à des pairs, c'est une hérésie. Alors c'est une hérésie qui est peut-être belle à entendre pour qui n'est pas scientifique, mais c'est une hérésie. Alors, autre fait étonnant, mais néanmoins cocasse, notre détracteur, il nous attaque sur la méthode, alors que ça fait des mois qu'ils invalident la méthode scientifique en l'opposant à l'expérience de terrain. Donc, faut se décider. Soit la méthode elle est importante, soit elle l'est pas. Si elle l'est, bah, je les invite à analyser avec autant de fougue les biais des études montrant un effet positif de l'hydroxychloroquine, dont une bonne partie d'ailleurs sort de l'IHU ou de chez Zelenko. Et petit tuyau, hein, les biais dans ces études, ils sont tellement évidents que perso, j'utilise ces études dans l'enseignement que je dispense pour que mes étudiants y identifient les erreurs et ne les commettent pas eux-mêmes plus tard. Et ça leur demande pas un effort insurmontable de les trouver, ces erreurs. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui est assez constant depuis mars, c'est la capacité fascinante des militants pro-hydroxychloroquine, parce qu'à ce stade c'est plus de la science, hein, c'est du militantisme, donc c'est leur capacité à analyser de façon très détaillée les études concluant au non-effet de l'hydroxychloroquine, tout en n'ayant aucun problème avec les études toutes pétées qui montrent que l'hydroxychloroquine fonctionne. Ils crient au scandale avec l'article du Lancet qui a été rétracté, mais le vrai scandale c'est qu'aucun de leurs papiers à eux n'a été rétracté. Typiquement le premier Gautreal n'aurait jamais dû être publié, et je doute fort qu'il l'aurait été dans une revue indépendante de l'IHU. Alors Violaine Guérin, elle a bien publié un truc dans une autre revue qui s'avère être une revue prédatrice, d'ailleurs c'est ce que Mathieu a démontré dans son célèbre canular sur les trottinettes, canular qui d'ailleurs lui a valu des tombereaux de merde de la part de ceux qui aiment à croire que le papier de Guérin était valable. Et puis dernièrement, coup de grâce avec Hold Up, cette bouse conspirationniste, où on est accusé de fraude scientifique et d'avoir indirectement provoqué la mort de milliers de personnes. Alors on a tellement fraudé que pour le fun, là dans la description, dans le billet de blog, peu importe, je vous mets la liste de 13 méta-analyses qui sont sorties après la nôtre et qui montrent plus ou moins la même conclusion que nous. Alors ouais, bien sûr que notre étude, elle n'était pas parfaite. Mais ces conclusions, elles sont quand même solides, et le fait qu'il y ait d'autres études indépendantes qui arrivent au même résultat, c'est plutôt un bon signe quand même. Alors à partir de là, quel bilan ? Quel bilan ? Bah au final, alors malgré tout ça, ça reste, parce que là je vous l'ai fait light, hein, mais à vivre c'est un peu moins rigolo, mais au final ça reste une très très belle expérience, qui moi personnellement m'a fait mûrir dans mon rôle de chercheur. Alors on a fait un travail honnête, on l'a fait bénévolement, et c'est un exemple que j'ai souvent donné, mais à ce moment-là de la pandémie, bah tout le monde voulait un petit peu aider par rapport à ce qu'il savait faire. Il y en a qui ont fait des masques, il y en a qui ont cuisiné pour les soignants, etc. Nous, bah on a fait une méta-analyse. Et on l'a fait vraiment dans l'intérêt général parce que, individuellement, on n'a pas grand-chose à y gagner. Nous, on n'a pas pour but de faire une carrière en épidémiologie, on n'a rien à vendre, on n'a pas de livres, on n'a pas de films, et puis on est rincé par aucun labo. Et on savait très bien que publier cette méta-analyse dans ce climat puant, ça nous exposerait à des tombereaux de merde, mais on l'a fait quand même. Pas par intérêt personnel, mais parce qu'à ce moment-là, on jugeait que c'était un travail nécessaire, et puis qu'on avait le temps de le faire et qu'on avait envie de le faire. Il y a de nombreux points positifs que j'avais pas anticipés. Alors déjà, j'ai des nouveaux amis, et ensuite j'ai tendu mon réseau vers des gens passionnants que sans doute j'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer autrement. Et pour ça, je dois vraiment remercier la Raoul Sphère qui, à force de taper sur tout le monde, a plus ou moins réussi à nous unir et à nous fédérer. Ensuite, j'ai été approché par le directeur de l'Institut de mathématiques de mon université, et puis on a commencé une belle collaboration qui est vraiment intéressante. J'ai pu intégrer, grâce à ce même directeur, un institut de recherche transversale de l'université de Neuchâtel. J'ai rejoint la fédération Covid-19 dans laquelle on essaye de donner de l'information sourcée sur le Covid. J'ai pu participer à une émission de la tronche en biais, ce qui valut une certaine reconnaissance de la part de mes étudiants, ou du moins une partie de mes étudiants. Je pense qu'à ce moment, j'ai gagné environ 10 points de swag. Je sais pas si on dit encore swag, mais j'ai gagné un peu en popularité. Et enfin, surtout, ce que j'éprouve, c'est la satisfaction d'avoir fait, avec mes camarades, quelque chose que j'estimais juste en dépit du bordel ambiant et de la possibilité de représailles. Et en ça, je me suis découvert des valeurs transmises qui me sont chères. Et si on regarde la balance bénéfice-nuisance, finalement, ça en valait vraiment la peine 1000 fois. Donc voilà. Voilà la vérité sur notre très grande fraude scientifique. En fait, on est juste des types normaux, avec une éducation scientifique, et puis on a produit dans notre temps libre une étude dont la qualité a été jugée suffisante pour être publiée dans une revue à comité de relecture réputée. On n'a pas fait une étude à charge, parce que les résultats ils auraient montré un bénéfice de l'hydroxychloroquine qu'on aurait été ravis. Hein, on attend tous un traitement efficace pour cette maladie qui bouscule nos quotidiens à tous. Finalement, notre seul tort dans cette affaire, ça a été de remettre en cause, par état de fait, la parole d'un mandarin qui ne supporte pas de s'être trompé.